Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes avec Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et je vous donne rendez-vous dans 30 secondes. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Idées Noires, donc comme tous les mercredis, de 20h à 21h, je dis ça tous les mercredis, je connais la récitation par cœur. Donc, c'est l'émission de radio, évidemment, d'expression et anarchiste de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et on commence toujours par quelques annonces.
Tout à fait. Alors, première petite annonce qui nous concerne, puisque ça se passera dans notre local, dans la librairie La Plus Noire, avec un café libertaire ce samedi 9 novembre à 17h autour de la lutte LGBTI. Quelle stratégie politique pour les LGBTI? Quel type d'organisation faut-il former? Voilà, donc on y parlera ensemble de tout ça. Donc ce samedi 19h à la librairie La Plus Noire, au 8 rue d'Hydro. Sinon, deux jours avant, le jeudi 7 novembre, il y a les rencontres de la presse indé à l'Alternative Bar. Ça se passera de 19 à 22h. Donc voilà, c'est des rencontres de presse indé lyonnaise. Voilà, donc il y aura au programme la découverte de nombreux médias indé lyonnais, des prises de parole, de la musique et des boissons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Samedi 9 novembre également à 20h30, ça se passera au Toy Toy Le Zinc. Ça, c'est à Villeurbanne. Accès par le T1, T4, arrêt INSA Einstein. Qu'est-ce que c'est? C'est la OK To Be Our Fest. Est une soirée donc festive avec 4 artistes locaux en concert entre pop, rock et punk pour fêter les anniversaires de toutes les personnes nées autour du mois d'octobre, mais aussi, et c'est là où ça nous intéresse un petit peu, pour soutenir une association locale, et donc l'association qui sera soutenue ce jour-là, c'est le collectif Solidarité entre femmes à la rue à l'occasion du début de la trêve hivernale. Donc plusieurs groupes, Single Ladies, les Gerbes Heureuses, Diamus et Vinona. Donc ça, c'est à partir de 20h30, samedi 9, et le bar est ouvert dès 17h. Sinon, on prend un peu d'avance, ça se passera le mercredi 20 novembre, place de la Comédie, Lyon 1er à 19h. Ce sera suivi d'un temps de soins communautaires au centre LGBTI. Bah, c'est la journée du souvenir trans 2024. Donc il y aura des discours, un temps de prise de parole libre et un moment de commémoration. Donc voilà, donc c'est organisé par l'OST, pour l'OST qui tient du coup des permanences collectives. Ce sera la prochaine, c'est ce vendredi 8 novembre de 18h à 20h au local de Solidaire-Rhône, 3 rue Carry. Donc voilà, et il y aura aussi autre chose le 20 novembre, si je dis pas de bêtises, je l'avais sous les yeux il n'y a pas très longtemps, mais avec un rassemblement organisé par Jamais Sans Toi. Et c'est également, je crois, place de la Comédie, il me semble. Ce sera à 18h. Donc du coup, une heure avant, le mercredi 20 novembre aussi, place de la Comédie, organisée par Jamais Sans Toi, donc qui s'occupe, comme vous le savez, ce sera d'ailleurs pour les 10 ans de Jamais Sans Toi, de familles dont les enfants sont scolarisés, donc de familles qui sont à la rue et qui s'occupent notamment avec les collectifs de parents, d'enseignants, de les loger dans les écoles. On fera peut-être sûrement un point avec Jamais Sans Toi, un de ces quatre, sur une émission. Ça pourrait être intéressant. Pour cette petite première partie, je fais un peu d'auto-promo,
on va dire. J'ai une petite annonce aussi.
Ah oui, excusez-moi, je vous ai oublié.
Je vous en prie, jeune homme.
Allez-y, allez-y.
C'est une association de soutien donc au peuple palestinien et libanais. qui nous invite, vous invite ce dimanche 10 novembre au Grun Zéro à Vaux-en-Velin de 12h à... à 0h, hein, carrément, 12 heures de, sans interruption, avec un programme quand même assez, je dirais, intéressant en ce qui concerne les événements dans cette région, avec 12h45, enfin ça va commencer à 12h, hein, mais à 12h45 et jusqu'à 15h30, il y a un ciné-discussion sur Jaffa, la mécanique de l'orange en présence de d'intervenants, quoi, en fait. 15h30, 17h30, une table ronde, urgence Liban, urgence Palestine, etc., etc. Il y en a bien besoin. 18h jusqu'à donc 0h, eh bien, ça sera là la partie festive de la soirée, de cette journée, avec les DJ sets, au pluriel d'ailleurs. Je ne vous les cite pas, il y en a plein, il y en a plein. Donc, ça risque évidemment d'être une bonne fin de soirée chaude et tout. Voilà, donc en soutien, je rappelle, au peuple palestinien et libanais, dimanche 10 novembre, Grun Zéro à Vaux-en-Velin, c'est de 12h à 0h et l'entrée est à prix libre. Alors ce que j'ai pas annoncé au départ, c'est qu'à 12h, donc la journée commence à 12h par une cantine, ce qui est pas mal. Voilà pour ces annonces ce soir.
Merci d'avoir complété tout ça. Oui, du coup, trois petits, alors c'est soit des communiqués, soit des petits articles de journaux qu'on peut trouver dans notre cher journal Alternative Libertaire qui sort tous les mois. Un premier article sur le validisme, notamment par rapport aux Jeux Paralympiques. Donc ça, c'est la commission journal qui l'a publié. Et ça date du 30 octobre 2024, donc de la semaine dernière. Les Jeux Paralympiques prenaient fin en septembre. Toujours séparés des Jeux Olympiques selon le souhait du CIO, cette compétition pose de nombreuses questions autour du validisme et nous rappelle que les promesses de « visibilité » entre guillemets et de « représentation » entre guillemets sont bien souvent destinées à faire oublier l'absence d'avancée sur ce front. « Qui ne saute pas n'est pas français » entonne joyeusement Emmanuel Macron en sautillant fébrilement, entouré de para-athlètes en fauteuil roulant, le regardant l'air gêné. Cette scène surréaliste se déroule au terme de la parade des champions, grand raout final récompensant les médaillés, les médaillés français et françaises des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors que ces derniers se sont clôturés le 8 septembre, cette scène sonne comme un rappel à la réalité. Loin des promesses de révolution paralympique que nous évoquions dans le précédent numéro d'Alternative Libertaire, la France reste avant tout championne du validisme. En 11 jours, les Jeux Paralympiques auront fait déplacer 4 fois moins de spectateurs et spectatrices que les JO valides, malgré des places souvent 10 fois moins chères. Le résultat du validisme ambiant, d'un financement bien inférieur, mais aussi du cloisonnement entre les deux événements, une décision dictée par le Comité International Olympique, le CIO, avec comme principal argument l'idée que rassembler athlètes et para-athlètes risquerait de faire perdre toute visibilité aux secondes, effacées par les premiers, bien évidemment. Un argument intéressant à décortiquer, partant d'emblée du postulat d'un plus grand intérêt du sport valide, il sous-entend aussi qu'aucun effort, ni de l'organisation, ni des athlètes valides, ne serait envisageable pour changer cela. Le maximum imaginable pour le CIO, c'est un espace à part et délimité qui laisse bien tranquille la majorité des valides en ne leur demandant aucun effort ou adaptation. Mais cette ségrégation doit aussi être interrogée. Couper les jeux en deux, c'est ancrer une conception binaire du handicap. On serait soit athlète, soit para-athlète. Là où la réalité est bien plus complexe, comme le rappelle à chaque édition des sportifs et sportives, concourant à la fois aux Jeux Olympiques et Paralympiques, comme cette année les pongistes Mélissa Tapper et Bruna Alexandre. Cette binarisation va aussi de pair avec l'omniprésence d'un discours héroïsant, autour des para-athlètes qui individualisent et dépolitisent les parcours, tout en maintenant le mythe du mérite et le culte de la performance à tout prix. Loin de déconstruire des stéréotypes, les Jeux paralympiques renforcent ceux qui maintiennent le statu quo capitaliste et validiste. Matériellement, passé les grandes déclarations creuses, absolument aucune mesure concrète n'a été annoncée concernant le handicap ou le handisport. Pire, alors que le gouvernement Barnier vient d'être annoncé, donc ça c'était il y a quelques temps quand même, on constate qu'il ne contient aucun ministère ou secrétaire d'État chargé du handicap. Le sujet a-t-il été oublié ou volontairement passé à la trappe au sein d'un gouvernement qui a déjà annoncé compter couper encore dans les dépenses publiques, coupes qui ne sont jamais de bon augure en matière de handicap et d'accessibilité. Devant le tollé, le gouvernement était revenu en arrière et avait nommé un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État, je ne me souviens plus. Car la fameuse visibilité qu'apporterait tant les Jeux Paralympiques ne sert à rien si elle n'est pas mise au service d'un discours politique anti-validiste et de revendications matérielles concrètes. À nous de nous en emparer de ces luttes et de les soutenir et de penser à un monde débarrassé du culte validiste de la performance. On fait un petit point sur le planning familial. Vous avez sûrement entendu ça dans les médias. Donc c'est un petit communiqué de l'UCL également. Donc pouvoir médical et violence patriarcale, le planning familial s'attaque aux violences sexistes et sexuelles en son sein. Donc en 1961, le docteur Henri Fabre et une équipe de militantes et militants créent à Grenoble le premier centre de mouvement français pour le planning familial, un an après la fondation de l'association. Nous apprenons cela grâce au témoignage de la victime si longtemps après, en 61, donc il crée ça. Le même année, dans ce centre, Henri Fabre violait une femme en consultation de gynécologie. Et une question surgit immédiatement, combien d'autres ? Donc nous apprenons cela, le planning, grâce au témoignage de la victime, si longtemps après, à 83 ans. Nous saluons son courage d'enfin briser ce silence et lui affirmons notre soutien. Son témoignage a été rendu possible par des décennies de luttes féministes au sein desquelles le planning familial a joué un rôle majeur, que lui-même n'échappe pas à la violence masculine est une preuve de son ampleur dans toute la société. L'affaire Pellicoult a démontré de façon tristement éclatante, tout homme qui en a l'opportunité peut devenir un violeur. À ce titre, les médecins et d'autant plus les gynécologues ont toujours eu une place privilégiée. La relation de pouvoir qu'ils ont de facto avec leurs patientes leur offre ces opportunités. Si les chiffres officiels manquent sur les violences sexuelles en consultation, ce n'est pas un hasard si plusieurs vagues de libération de la parole ont visé spécifiquement les médecins, comme le hashtag #PayTonUtérus en 2014 ou plus récemment au sein du mouvement MeToo. Ce fait n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une prétendue « nature » entre guillemets intrinsèque des hommes qui en fait des violeurs, ce sont les structures sociales de la domination masculine, autrement dit le patriarcat. Si les hommes violent, c'est parce que le viol est minimisé, tourné en sujet de plaisanterie, voire encouragé. C'est parce que les violeurs sont rarement accusés et rarement condamnés, aussi bien socialement que pénalement, là où les actes de résistance des femmes, parfois poussés à bout, sont lourdement sanctionnés. C'est parce que le consentement des femmes est vu comme optionnel, et ce d'autant plus en contexte médical. Et c'est parce que les hommes savent qu'ils peuvent violer en toute impunité, car c'est l'outil de contrôle des femmes par excellence. L'affaire Henri Fabre en est une preuve cinglante. Il n'a jamais été inquiété de son vivant pour ses actes. Prise par la sidération et sachant que sa parole ne vaudrait rien face à cette figure des droits des femmes, sa victime a dû se taire pendant 60 ans. Henri Fabre a ensuite arrêté d'exercer pour devenir médecin inspecteur à 59 ans, ce qui est jeune pour la profession et ne nous manque pas de nous questionner. Les institutions médicales telles que l'Ordre des médecins, foncièrement conservateur et patriarcal, étaient-elles au courant ? Seul un mouvement féministe d'ampleur pourra faire reculer et un jour éradiquer le patriarcat qui permet ces violences. La libération de la parole en est la première étape indispensable. Elle a permis aujourd'hui de faire la lumière sur Henri Fabre. Elle doit se renforcer encore pour révéler et sanctionner les actes de tous les médecins agresseurs et sexistes qu'ils exercent au planning familial ou partout ailleurs. C'est un combat qui concerne toute la société. Nous devons parvenir à une tolérance zéro contre les violences sexistes et sexuelles. Pour faciliter cette libération et aller plus loin encore, il est important de développer des lieux d'auto-organisation des femmes et en premier lieu, les organisations féministes. Il est notamment plus que jamais pertinent de rejoindre et de renforcer le planning familial auquel nous affirmons notre soutien. Plus nous y serons nombreuses et puissantes, plus nous contribuerons au rapport de force contre les VSS et plus nous serons en mesure de les prévenir et d'accompagner les victimes. Les VSS existent partout, nous devons donc réaliser ce travail à tous les niveaux, dans nos cercles sociaux, sur nos lieux de travail, mais aussi dans nos organisations et syndicats. Il en va de notre responsabilité et l'auto-organisation des femmes en est la pierre angulaire. Voilà pour ce communiqué de l'Union communiste libertaire du 30 octobre dernier. Et je ferai pas le dernier, parce que ouais, on va faire la petite pause musicale, mais je vous invite à aller sur le site de l'UCL, et notamment du coup un article aussi, en tout cas un communiqué, sur les travailleurs sans papier de Chronopost Alfortville. Voilà. Ouais. Bon, tu as sûrement en parlé, puis tu en parleras sûrement dans ta page.
J'en ai parlé déjà.
On en a parlé déjà. Ouais. Et parce que du coup, voilà, ils sont fait expulser de leur piquet de grève le 31 octobre dernier. Et donc du coup, il y avait une mobilisation aujourd'hui, c'était à 16h devant l'agence rue Louis Varnier à Alfortville. C'était pour marcher en direction de la préfecture du Val-de-Marne. Donc c'est une lutte qui dure depuis un grand moment, depuis le 7 décembre 2021 quand même.
En plus, il y avait eu des améliorations, avancées, comme on dit, c'est le mot employé. Et je m'aperçois qu'en fait, finalement...
En fait, non, que dalle, parce qu'ils sont toujours 200.
Voilà. C'est la préfecture,
qui bloque,
en fait.
Ouais. Voilà, 200, okay. Ils sont 200 encore et qui exigent leur régularisation. Donc, je vous invite à aller lire, du coup, le petit article qui est sur le site de l'UCL. Et donc, on va pouvoir faire notre première petite pause musicale.
Eh bien, soit. Donc, ce soir, j'ai choisi...
Attention, et ça change de style, pour une fois, attention.
Ah bah là,
c'est pas moi qui ai choisi.
Écoute, moi j'ai un peu tous les styles quand même, enfin bon, voilà. on va écouter Tagada, pas Tagada de soin, mais Tagada Jones, et qui nous interprète le dernier baril. Ça tombe bien parce qu'on vient d'apprendre que la production de pétrole a augmenté considérablement. C'est bien pour le climat des capitalistes. Voilà. Allez, c'est parti pour Tagada.
Nous a le plaisir de vos yeux. Merci pour le... gros tueur.
Moi j'ai dans le casque, mais. Bah dis donc, c'était rapide, effectivement. Ah non, ah. Il y a une petite embrouille là, non, sur le...
Ah, écoute, je sais, on sait rien.
On va couper, on va remarder, c'est pas grave.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas.
Je te laisse couper, la musique.
Est-ce que c'est moi qui ai fait une petite bêtise? Donc c'est bon?
Ouais, on peut couper la musique, c'est pas grave.
Ok.
On peut le faire avec le rythme aussi, si tu veux.
Vas-y.
Non, je pense que la première chanson a dû se lancer un peu avant que tu la lances toi.
Bah écoute, je sais pas.
Parce que
si
tu m'as dit que c'était court, mais là c'était vraiment très court, quoi, pour le coup. Écoute, c'est pas grave. Bah du coup, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et dès que tu te seras dépatouillé de la platine CD, on pourra lancer la première page de lutte sociale.
Ah bah
vous êtes ok, c'est parti ou pas?
Ah déjà.
Bah
ah,
oui, bah, la musique, tu m'as mis 30 secondes de musique, coup après c'était fini quoi.
Ah bah si tu veux je remets.
Non c'est bon, on fait la première, on en remettra une deuxième tout à l'heure, c'est
d'accord,
pas un souci.
Ok, allez c'est parti donc pour des luttes sociales. Oh il y en aura encore je pense bien et beaucoup et bonnes j'espère, enfin bon bref. Allez, à Grand Couronne, c'était en octobre, hein, donc je vais finir sur le mois d'octobre avec Grand Couronne en Seine-Maritime le 17 octobre. Donc la clinique privée, les Essarts, le personnel était en grève, pour rien vous cacher, pour les salaires. Et c'est une première depuis 1976 qui est la date d'ouverture de cette clinique. Et c'est une première qui a duré qu'une heure, une heure seulement. Et il y avait des slogans. Sur des cartons marqués, par exemple ma pancarte est aussi pourrie que mon salaire, mais ça je l'avais déjà entendu quelque part une fois déjà.
Possible.
Enfin c'est de la copie mais c'est normal, hein, on peut, hein. Et ou alors vous aviez aussi pas d'augmentation, pas de motivation. Bon, voilà. Alors, perte, évidemment, dans cette clinique pour les salariés des acquis sociaux, des avantages, des primes, etc. Les salaires non revalorisés, le SMIC est à leur porte. Alors, c'est les commentaires, par exemple, c'est les commentaires qu'on a pu avoir dans cette heure de lutte, la CGT, selon la CGT. Donc, y a des témoins, hein. Les témoins sont les patients et les patientes qui confirment un service impeccable. Il y a 88 personnes qui peuvent être soignées dans cette clinique. Ils appellent ça des 88 lits. Bon, d'accord. Le 24 octobre, des NAO, il y aura des NAO, donc il y avait des NAO le 24 octobre, pardon, je vais y arriver, que je n'ai pas eu connaissance d'ailleurs, et qui pouvait être une porte de sortie, voilà, une sortie de crise, voilà. Alors Valeo maintenant, important, donc c'est un des équipementiers de l'automobile les plus importants, je dirais même sur la planète, il me semble bien encore. Alors ça concerne le site de la Suze sur Sarthe, c'est dans la Sarthe, et qui est à vendre ce site. Et donc, c'est une menace de fermeture. Le 21 octobre, les salariés étaient en grève à leur demande express. Et la CFDT et FO et aussi la CGT se sont donc exécutés, on va dire. Du moins, ils se sont acquittés donc de cette grève. Alors, la grogne en question, des intérimaires qui sont embauchés, qui arrivent, le contrat en main, par dizaines et sont formés donc par les personnels en CDI de chez Valeo. Et ils sont formés à la production d'équipements thermiques. Autrement dit, elles forgent le sabre donc qui va leur trancher la tête, enfin du moins à ceux qui sont en CDI. Aucune information rassurante depuis le 15 juillet, c'est la date de l'annonce. Donc, c'est la grève, et tout comme à Saint-Quentin-Falavier, par exemple, dans l'Isère, à Lillabo, Dabo aussi dans l'Isère, et à la Verrière dans les Yvelines. Une prime donc égale à 3400 euros a été exigée. Alors on en discute. Une nouvelle échéance a été prévue le 6 décembre prochain. En attendant, 30 salariés ont fait leur bagage sur un effectif de 270 personnes. Alors, aux dernières nouvelles, le 21-10, des réunions de comités d'entreprise européens et centrales et extraordinaires ont fait un joli flop, notamment sur une possible reprise du site. La sauce, donc, n'est pas encore prête pour un gueuleton capitaliste. Elle n'est que tiède, mais de quel côté, en fait? Donc, le 6 décembre, il y aura une réponse, peut-être. Quoique, il y a eu quand même, entre-temps, un accord qui a été pris, et la grève a été levée le 31-10. Alors, l'accord, donc, de ce dernier moment sur la prime a été accepté par la CGC et la CFDT, qui sont les deux syndicats majoritaires. EFO et la CGT donc ont refusé, puisque cette prime ne s'appliquait pas à tout le monde, c'est-à-dire à toutes et à tous. Et pour la CFDT, je cite la CFDT, nous étions face à un mur. Voilà, il y a des fois des murs qui peuvent se démonter à coups de pioche. Hein. Et ensuite, donc, on est passé du 6-12, donc, pour l'acte final de la fermeture ou non, on est passé au 15 décembre pour une réponse de la direction générale. Ah, c'est pas simple, dans les bagarres, des fois. C'est pas simple du tout. Il y a pire, même. Pont-de-Claix, dans l'Isère aussi. Pont-de-Claix, ça concerne la société Vancorex, une société qui produit des isocyanates pour les peintures, vernis. C'est une substance qui rentre donc dans la composition des peintures et vernis. A été placée en redressement judiciaire le 10 septembre. Elle appartient au groupe PTT-GC. C'est pas notre La Poste, attention, PTT c'est un groupe de la pétrochimie. Alors des repreneurs sont invités à donner leur offre. Une société chinoise est intéressée via une filiale qui se trouve en Hongrie. Vous voyez un peu le truc, le plan, quand même. C'est européen, c'est, je dirais même, mondial. Donc 25 salariés seraient repris sur 450, donc qui sont sur le pied de guerre avec la CGT et la CGC depuis le 23 octobre, avec une grève illimitée et générale, avec piquet de grève décidé donc en Assemblée Générale. L'offre est jugée donc insuffisante, insatisfaisante. Les négociations du PSE doivent être dignes, selon le CSE, qui est dans la bagarre, et qui est en contact avec même Bercy pour la reprise de cette société. La chute de Vancorex rendrait difficile, il faut le dire, la vie d'autres entreprises de la chimie, telles que Arkema, qui auraient de bonnes raisons, en fait, de reprendre l'activité Vancorex, selon l'intersyndicale. Ensemble, en fait, les deux entreprises ont mis en place un saumoduc. C'est de la saumure, saumoduc, pour transporter, donc, comme on transporte du pétrole, pour acheminer donc des sels depuis la Drôme. Il y a des choses qui se passent sous nos pieds et qu'on ne sait pas. Donc, en attendant, les salariés bloquent toutes les entrées et sorties. Le 24 octobre, c'était un appel de la syndicale d'Arkema à Jarry, dans l'Isère, pour une mobilisation. 340 personnes, donc, et cette lutte est toujours en cours. DSI maintenant, c'est distribution, service industriel, qui est une entreprise de 1100 personnes, 1100 salariés. C'est une entreprise adaptée qui emploie en majorité des personnes avec handicap, qui est sous-traitante également de Airbus et du CNES, du CNES, c'est le Centre National des Études Spatiales, à Blagnac, du côté de Toulouse. Il y avait une grève le 25 octobre pour les salaires, mais aussi pour dénoncer un climat tendu. 20 salariés mobilisés. Salaire, ici, encore une fois, c'est le SMIC. Je rappelle que, quand même, je ne sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs pour dire que je le rappelle, que 17% des salariés en France, au plan national, j'entends, sont au SMIC. 17, ça augmente quand même. Alors, pas d'augmentation, et ça dure depuis des années. Et ils souhaiteraient donc, les grévistes, être mieux informés sur les aides de l'État. Tiens. Mais le patron a très mal pris ce mouvement de mécontentement. Il a même méprisé les grévistes et la déléguée syndicale. D'octobre, dans les Deux-Sèvres, le 29 octobre, c'est 130 travailleurs du constructeur Euliez, qui construit donc des bus et des cars, qui étaient en grève à Rortay, dans les Deux-Sèvres. La veille, une manifestation des colères pour 80 personnes provoquées par les négociations annuelles obligatoires et les salaires pour une augmentation à 3,2% mensuelle pour 2025. On négocie déjà pour 2025. Alors, il y a eu deux nouvelles rencontres qui étaient prévues, mais on ne sait pas ce que ça a donné. Ils exigent aussi une meilleure répartition du temps de travail. Ils ont peur de goûter au chômage partiel à la fin de l'année. Ils craignent en fait un chômage partiel donc à la fin de l'année 2024. L'effectif, c'est 430 personnes, dont 100 intérimaires, une centaine d'intérimaires selon le syndicat EFO. La direction n'entend pas les craintes de ses employés et une régulation de la production qui serait nécessaire. J'ai aussi la société Eurial. Eurial, c'est une entreprise qui exerce dans le domaine de la logistique frigorifique. C'est en fait l'ancienne marque Senoble pour les produits laitiers. Voilà, c'est à Fouchères dans l'Yonne et c'était le 30 octobre. Les salariés, une cinquantaine, en ont gros vraiment sur la patate. Ils se sont réunis devant l'entrepôt logistique de la laiterie. Une deuxième journée de lutte pour les salaires, qui concerne un effectif de 230 personnes employées. La direction se cantonne dans le silence. Seule réponse, le gouvernement va taxer les entreprises, selon la CGT qui revendique 60 euros bruts mensuels pour tous lors d'une première réunion. Alors même motif et même punition aussi à Villeroy, également dans l'Yonne. Et il y a eu rebelote, je dirais, le 31 octobre. Autre sourde oreille, ça vient de la direction d'Interforum, qui est une filiale du groupe d'édition Editis, pour la distribution, la livraison de livres. Salariés en colère et grève qui a démarré le 30 septembre et qui était encore là en cette fin octobre avec Force Ouvrière. Le travail a repris, mais à petite vitesse, avec des intérimaires que la direction a convoqués. Alors les revendications, il s'agit de la PPV, la fameuse prime de partage de la valeur, une augmentation des salaires, de la considération aussi pour les travailleurs. Les propositions de la direction ne sont pas à la hauteur de la détermination des salariés du milliardaire Daniel Kretinsky, qui a, on se rappelle, déchiqueté après l'avoir acheté le groupe, l'enseigne Casino de 3000 postes qui avait été supprimé. Le plus important plan social en France en 2024, Kretinsky, quel nom, a repris Editis en 2023. Et puis, j'ai encore un petit peu, on va continuer avec Caussad dans le Tarn-et-Garonne, le 30 octobre, il y a trois semaines, à partir du 30 octobre, donc il y a trois semaines, courant octobre, la direction de l'IDEA, c'est un semencier, annonçait la fermeture du site, encore, pour février 2025, 60 pertes d'emplois, grève ce 30 octobre, avec une pression sur la direction, car d'autres sites touchés, comme Chartres en Eure-et-Loire et Quérac dans le Tarn-et-Garonne. Donc 40 salariés en lutte à Caussad avec barrage filtrant à l'usine même, avec Force Ouvrière. Ça semble bien mortibus en tout cas. On parle de départ digne. Donc ça sent le roussi. Minimum légal, c'est 65% du salaire brut sur 4 mois pour et puis, pardon, chômage, et puis bah, les primes, et bah, apparemment, rien. Perrenchy et Lincel, c'est dans le Nord, c'était le 24 octobre, j'ai repris ça un petit peu plus tard, avec un fabricant de meubles en kit qui se nomme CBA Meubles, avec une grève animée par une centaine de personnes, ils étaient 140 exactement, de salariés en débrayage pour voir leur salaire évoluer. La reprise par CBA de l'établissement de Meyer ne tient pas ses promesses, du moins pour les investissements depuis 2 ans et demi. 27 millions d'euros devaient être investis. Eh bien, on les cherche encore sur les deux sites. Et là aussi, ça sent un peu le sapin. Des débrayages depuis le 17 octobre pour 40 euros net mensuels sur les salaires. Les négociations annuelles obligatoires ont dit bah non depuis 2022. Et la CGT est là, la CFDT aussi. Et le comité social et économique. Donc ça fait un petit peu de monde. Saint-Nazaire maintenant, dans le Loire-Atlantique, ça a commencé le 17 octobre, et c'est la grève des marins. De la grève de marins, ben oui, il y en a aussi, ah oui, des marins salariés du groupe Boluda. C'est une société de remorqueurs qui a pris fin donc le 24, selon la CGT. Ils ont tout fait à ces marins remorqueurs là. Réquisition, gendarmes, préfecture. Tout ça pour une négociation salariale, tout simplement. Alors, mais il faut dire quand même qu'à Saint-Nazaire, s'il n'y a pas de remorqueur, eh ben, il n'y a pas d'approvisionnement de gaz, d'agroalimentaire, de méthanier, de céréalier planté. Donc, il y avait 14 navires quand même qui étaient plantés au large, hein, qui ne pouvaient pas approcher sans les navires remorqueurs. La CGT lance une procédure judiciaire pour réquisition abusive. Des sociétés comme Elengie, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, pour le gaz, Total et Cargill aussi pour les céréales, qui fait dans l'huile alimentaire. Excusez-moi du détail, mais enfin, il fallait le dire, était quand même bien impacté. Donc, voilà, les gendarmes, marins, ouais. Peut-être. Bon, voilà pour cette première page, qui était assez longue.
Allez, c'est parti, une petite page, du coup, on va traverser l'océan. Bon, comme vous le savez sûrement, l'élection américaine a donné son verdict cette nuit en France, ou dans la matinée, avec la réélection de Donald Trump au poste suprême, avec même raflé la mise du Congrès, du Sénat là-bas. Donc ça fait beaucoup de pouvoir sur un seul homme qui est complètement imprévisible. On pense pas mal du coup aux camarades là-bas, aux femmes, aux minorités de genre qui risquent, pour qui ça risque d'être compliqué sur les 4 prochaines années. On sait que du coup déjà nos camarades, par exemple de Black Rose ou même d'autres un peu partout aux États-Unis, appellent les gens à s'organiser, à rejoindre les organisations existantes pour résister durant ces 4 ans. Et il a fallu chercher quand même quelques bonnes nouvelles. C'était compliqué suite à cette soirée électorale.
Des bonnes nouvelles de Trump ?
Pas de Trump, non, mais du coup, parce que du coup, en plus des élections présidentielles là-bas, il y avait des questions référendaires, d'initiatives populaires ou bien émanant de législatures locales. Donc les électeurs électrices de 41 États étaient appelés donc à voter pour Trump Kamala Harris, mais aussi à se prononcer autour de 160 mesures électorales sur des sujets allant du droit à l'avortement au salaire minimum, en passant par la légalisation du cannabis ou les procédures d'accès au vote. Comme on a parlé la semaine dernière, depuis juin 2022, chaque État peut légiférer sur le droit à l'avortement. Et ben, une petite bonne nouvelle quand même durant cette soirée, c'est que l'IVG a été consolidé dans l'État de New York, du Maryland, du Colorado et du Nevada. Dans l'État de New York, les électeurs votaient pour étendre l'interdiction des discriminations liées à l'avortement et à l'identité de genre. La mesure qui visait à établir que les personnes ne peuvent se voir refuser des droits en raison de leur appartenance ethnique, origine nationale, âge et handicap ou de leur sexe, y compris leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre, leur grossesse, l'issue de leur grossesse, leurs soins de santé reproductifs et leur autonomie, a recueilli 74,3% des votes, donc cette mesure est passée, il faut obtenir plus de 60%. Dans le Maryland, le texte qui visait à établir un droit à la liberté de procréation, défini comme incluant la capacité de prendre et d'appliquer des décisions pour prévenir, poursuivre ou mettre fin à sa propre grossesse, a été adopté avec 75,8% des voix. Dans le Colorado, Les électeurs ont approuvé à 61% un amendement à la Constitution de l'État garantissant la protection de l'avortement. La mesure abroge l'interdiction du financement de l'avortement par l'État et les collectivités locales et permet à Medicaid ainsi qu'à d'autres programmes publics d'assurance maladie de couvrir la procédure. L'avortement est déjà légal au Colorado à tous les stades de la grossesse. Dans le Nevada, les électeurs ont aussi voté en faveur d'un amendement à la Constitution afin de protéger le droit à l'avortement jusqu'à la viabilité ou après la viabilité dans les cas où la santé ou la vie d'une patiente peut être menacée. Les électeurs doivent également approuver la question du référendum en 2026 afin de modifier la constitution de l'État. Les habitants de l'Arizona ont approuvé une mesure de vote qui établirait un droit fondamental à l'avortement et interdirait à l'État de restreindre ou d'interdire l'avortement avant 24 semaines, avec des exceptions après cette date, si un professionnel de la santé décide que cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé physique ou mentale de la personne enceinte. Dans l'Arizona, l'avortement est actuellement interdit après 15 semaines. Dans le Missouri, les électeurs ont décidé d'annuler l'interdiction quasi totale de l'avortement et d'établir une garantie constitutionnelle du droit fondamental à la liberté reproductive, y compris les soins d'avortement jusqu'à la viabilité du fœtus. En revanche, les électeurs de Floride ont décidé de rejeter l'amendement autour du droit à l'avortement. La proposition de loi nécessitait au moins donc 60% des voix pour être adoptée. Elle n'en a récolté que 57%. Elle prévoyait de modifier la constitution de l'État afin d'accorder un droit à l'avortement avant la viabilité du fœtus ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente. Depuis mai, le Sunshine State interdit l'IVG après la 6e semaine de grossesse. En octobre, Donald Trump, président de Floride, avait déclaré qu'il voterait contre cette mesure. Une prise de position suivie par un témoignage de son épouse Melanie Trump, issue de ses mémoires. L'ancienne première dame des États-Unis y défend ardemment le droit à l'avortement et celui des femmes à disposer de leur corps. Également, les électeurs électrices du Dakota du Sud ont aussi rejeté une proposition visant à ajouter des protections pour le droit à l'avortement à la constitution de l'État. Et au Nebraska, seul État à avoir deux initiatives concurrentes, les habitants ont soutenu une mesure qui inscrit l'interdiction actuelle de l'avortement après la 12e semaine de grossesse dans la constitution de l'État et ont rejeté une mesure concurrente qui cherchait à étendre le droit à l'avortement. Le cannabis récréatif aussi s'était invité dans la campagne, mais du coup il n'y aura pas de fumée verte en Floride puisque l'amendement a été rejeté. Il y avait aussi des projets de modification du processus électoral, comme je vous le disais. Il y a eu des dizaines de consultations proposées par le Parti républicain qui ont mis l'accent sur l'immigration, malheureusement, et notamment l'intégrité du processus électoral. À de nombreuses reprises, les partisans du candidat Trump ont pointé de supposés votes effectués par des non-citoyens ou des immigrés, entre guillemets, illégaux, qui feraient pencher le vote en faveur des démocrates. Le 29 septembre même, dans un message posté sur X, Elon Musk, fervent partisan de Donald Trump, avait affirmé, sans apporter aucune preuve bien évidemment, que l'administration Biden et Harris avait fait venir par avion des demandeurs d'asile qui bénéficient d'une voie rapide vers la citoyenneté, directement dans les états pivots comme la Pennsylvanie, l'Ohio, le Wisconsin et l'Arizona. Les assemblées législatives de 8 États républicains ont donc soumis au vote des amendements constitutionnels visant à interdire à l'État et aux gouvernements locaux d'autoriser le vote des non-citoyens. Ça fait tâche, mais c'est comme ça. Et dans l'Iowa, en Caroline du Nord ou encore dans le Kentucky, seul un citoyen des États-Unis pourra voter. Donc il faudra bien la citoyenneté américaine. Donc voilà pour ces un petit peu votes qui sont passés du coup en plus des élections américaines. Et j'aurai juste du coup un petit article que je vais retrouver tout de suite avant la deuxième pause musicale. Voilà. Parce que du coup on va parler un peu d'économie et d'entreprise avec un article qui parle de ces entreprises françaises qui préfèrent financer le camp Trump plutôt que celui de Kamala Harris. Donc ces entreprises françaises, et y compris publiques, ont versé en tout plusieurs centaines de milliers de dollars au profit des campagnes électorales de plusieurs candidats républicains de l'aile la plus extrémiste et conservatrice du parti. Donc la campagne, qui s'est achevée donc hier, a été ponctuée donc par les surenchères de Donald Trump dans les discours ouvertement racistes et misogynes et par des appels plus ou moins feutrés à la violence politique pour intimider ses adversaires, qui réveillaient un peu le spectre de l'attaque du Capitole si jamais il avait perdu. La campagne a été aussi marquée par l'acceptation croissante de ce type de discours, désormais considérés et traités comme normaux par une partie importante des médias et de la population américaine. L'attitude des milieux d'affaires reflète cette normalisation. Si une bonne partie de l'élite économique avait parié sur Hillary Clinton plutôt que sur Donald Trump en 2016, elle a très bien su s'accommoder de la politique mise en œuvre par ce dernier, notamment en matière de baisse des impôts. A l'inverse, les mesures prises par l'administration de Joe Biden pour tenter de rééquilibrer quelque peu le partage des richesses dans le pays et sa position plus agressive en matière de lutte contre les monopoles dans le numérique et au-delà n'ont pas été à leur goût. Si tous les soutiens traditionnels du Parti démocrate n'ont pas été jusqu'à choisir ouvertement Trump, ils se sont largement détournés de Joe Biden et son remplacement par Kamala Harris n'a que partiellement changé la situation. Les appuis de cette dernière, comme le milliardaire Mark Cuban, poussent à ce qu'elle revienne sur un positionnement plutôt centriste et pro-business, avec pour risque d'aliéner donc une partie de l'électorat démocrate de gauche, comme cela avait été le cas en 2016. Une bonne partie de l'établishment économique semble donc adopter une position de prudence et d'expectative, mettant sur le même plan les deux candidats. En témoigne, donc c'était juste avant l'élection, la décision de Jeff Bezos, ancien patron d'Amazon, d'empêcher le Washington Post, dont il est aujourd'hui propriétaire, de soutenir officiellement la candidature de Kamala Harris, comme sa rédaction s'apprêtait à le faire. Cette tiédeur ne donne que davantage de relief à l'activisme de certains soutiens de Donald Trump, à commencer par Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et X, ex-Twitter. En plus de mener ouvertement campagne en personne, le milliardaire a financé les équipes de Donald Trump et des groupes menant des campagnes de désinformation dans les états-clés du scrutin. Donc Musk, sous promesse de Donald Trump, doit présider, donc maintenant que Trump est élu, une commission chargée de rendre le gouvernement fédéral plus efficient, autrement dit effectuer des coupes claires dans les ministères et les agences et dans les régulations qu'elles sont chargées d'appliquer. Il aurait ainsi sous sa coupe des autorités publiques dont dépend la fortune de ces entreprises, comme la NASA pour SpaceX, et d'autres avec lesquelles il est actuellement en conflit. Ce projet de dérégulation radicale rejoint celui qui est formulé dans le projet 2025 de la Heritage Foundation, membre du réseau Atlas, qui se veut le programme politique d'une future administration Trump. Comme l'Observatoire des multinationales l'avait fait lors des scrutins précédents, ils se sont penchés sur les financements politiques des filiales des groupes français aux États-Unis sur la base des données compilées par Open Secret. Les sommes des groupes français en jeu sont évidemment plutôt modestes, hein, par rapport à celles qui ont été débloquées par les géants américains comme ExxonMobil ou Alphabet, la maison mère de Google. Il n'en reste pas moins que même en se concentrant sur l'argent transitant par les Political Action Committees, les entreprises françaises ont bien versé de l'argent à des candidats au Sénat ou à la Chambre des représentants, en privilégiant souvent le camp républicain. Dans de nombreux cas, ces financements ont même été destinés à des hommes ou femmes politiques de la faction la plus extrémiste du Parti républicain, qui contestent encore aujourd'hui la légitimité du scrutin de 2020 et ont refusé d'en entériner officiellement les résultats. Alors que tout porte à croire que Donald Trump et ses partisans auraient contesté leur défaite si jamais Kamala Harris avait gagné, ces candidats pourraient être amenés donc à jouer un rôle clé dans le sort de la démocratie américaine. Qui sont les groupes français concernés ? Des petits paris ? Alors, celui qui arrive en tête de la liste ne devrait pas être une surprise tant il est désormais au moins dans la liste, dans la tête de ses dirigeants davantage américains que français, le géant de la pharmacie Sanofi. Son Political Action Committees a déclaré à ce jour pour $409,000 de contributions à des campagnes électorales, en majorité pour les républicains. Il a par exemple donné $30,000 à chacun des comités nationaux républicains pour le Sénat et le Congrès et financé les campagnes de multiples candidats qui ont refusé de reconnaître donc ce résultat de 2020, comme John Joyce, Lloyd Smoker, Guy Rosenstaller et Mac Kelly de Pennsylvanie, etc., etc. Une orientation politique plutôt trumpiste qui s'explique peut-être par la volonté affichée par Joe Biden et son administration de limiter le prix des médicaments dans le pays. Une autre catégorie d'entreprises françaises plus inattendue se distingue également par ses financements politiques. Par exemple, les groupes à capitaux publics comme Airbus, EDF, Engie et Thales. Le premier, contrôlé conjointement par la France, l'Allemagne et l'Espagne, affiche $276,000 de contributions dans leur immense majorité en faveur de républicains. Selon l'organisation The Nation and Democracy, le pacte d'Airbus US a soutenu pas moins de 28 candidats républicains qui ont voté contre l'approbation des résultats de l'élection 2020. Sur les 6 candidats qui ont chacun bénéficié de la somme maximale versée, $10,000, 5 ont refusé de reconnaître officiellement la défaite de Donald Trump à l'époque. Le Political Action Committee d'EDF aux États-Unis, où le groupe est surtout présent dans le secteur des énergies renouvelables, a versé lui $151,800 de contributions à 58% pour des candidats démocrates. On trouve néanmoins parmi les bénéficiaires de cette générosité de l'entreprise publique des républicains alignés sur le déni électoral trumpiste comme Bob Good au Kansas et Ben Clyde en Virginie. Constat est le même chez Thales également. Je regarde s'il y en a d'autres avant de conclure cette petite page. Juste quand elles sont montrées du doigt pour ce type de contribution politique, les entreprises concernées se défendent généralement en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de financement direct de leur part, mais de dons de leurs employés transitant par une structure cette liée à l'entreprise, mais indépendante d'elle. En réalité, la constitution d'un Political Action Committee est décidée donc par l'entreprise qui a le pouvoir de désigner les personnes qui décideront à qui seront destinés les dons. Ce sont donc généralement les dirigeants de l'entreprise qui apportent les contributions financières. Les deux principaux donateurs au PAC d'EDF sont ainsi Tristan Grimbert, PDG de la filiale américaine, et Jim Peters, le vice-président en charge du financement des projets. Son trésorier est Virinder Singh, responsable des affaires législatives et de régulation, autrement dit lobbyiste en chef de l'entreprise à Washington. Donc voilà pour ces jolis financements. Oui. D'entreprises françaises. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai fini sur un autre point qui concerne aussi les élections. On verra si on a le temps tout à l'heure. Ce sera dans 15 jours. Petite pause musicale, du coup, peut-être plus longue que la première.
Oui, j'espère. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne comprends pas. Donc, on va écouter un nouveau morceau de Tagada Jones. C'est cette fois Zéro de conduite.
Ce matin, je ne sais pas pourquoi je me réveille encore une fois avec une putain de gueule de bois. Et comme si cela ne suffisait pas, il passe en boucle à la radio plein de connards et d'intello. Manquerait plus qu'une interview militaire en désir de carrière. Non, je ne fais pas partie de la France qui se lève et tout. Je n'ai aucune envie de passer ma vie au boulot à croire que tout le monde se passe le mot. Le travail, c'est l'avenir des marmots. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut pour m'assurer une vie sans trop d'accro. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut. Et quoi qu'il en soit, j'aurai le dernier mot. Je voudrais juste me foutre la paix, enfin faire ce qui me plaît. En retour à toutes vos belles réussites, je vous offre un zéro de conduite. Je rêve de soleil, de soirée et de fête. Alors que vous voulez m'en mettre plein la tête, cette vie n'est pas pour moi. Société, tu ne râles pas pour toutes ces conneries.
Eh ben, il y a du punch, hein.
Exactement. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire, et on part pour une deuxième page.
Oui,
la lutte sociale.
Oui, et alors elle sera un petit peu plus courte quand même que la précédente, avec le Hayan en Gironde. Ah, là, on parle de septembre. Hein, alors, je dois dire que j'ai travaillé quand même depuis juillet, août, septembre et tout ça. Bon, alors le Hayan en Gironde, c'est le 10 septembre chez Steris, matériel pour des blocs opératoires. 70 salariés en grève, un PSE mal fagoté, selon l'UNSA. Quelques avancées, c'est tout. Faire vite pour les mesures sociales, c'est le mot d'ordre, puisque la fermeture, ce sera pour le 31 mars 2025. 13 ans d'existence au Hayan, ça fait mal pour 96 personnes salariées. Malgré les revendications, 14 et 16 mois et 18 pour les plus de 55 ans, handicapés et parents isolés, pour 85% de la dernière rémunération, hein, ce sont les revendications, et en fait, c'est pas gagné. Hein. Et ça coince sur l'accompagnement, donc aussi, la direction bloque sur les propositions syndicales, alors que Steris, qui est une société des USA, hein, je le dis, hein, des États-Unis, là, est très aisée quand même, très aisée, je ne sais pas si on fait la liaison, mais a décidé une décision boursière selon le CSE. Alors tout pour les actionnaires, le meilleur des bénéfices. Pour les sacrifier, entre guillemets, bah, ils et elles bosseront jusqu'au 31 mars 2025, car les carnets de commandes sont pleins. Plein de bons gros dollars, 6,3 milliards en fonds propres, dont 1,1 milliard pour les actionnaires sur 4 ans. Étant Salé maintenant, c'est à l'île de la Réunion le 9 septembre et c'est sans transition par rapport à ce que je viens de dire précédemment à propos des blocs opératoires, car là on passe carrément à un abattoir de volailles. Excusez-moi, c'est comme ça que ça tombe, j'y peux rien. 400 salariés de chez Evolis, donc pour une grève qui marque la volonté de rester au sein de et sous la gouvernance du groupe Duchemin et Grondin, conformément à un protocole de l'année 2017 en phase d'annulation, car non favorable à l'URCOPA, qui est une coopérative agricole, éjectée pourtant de la gouvernance d'Evolis, alors que cette coopérative agricole détient quand même, elle détient donc à 100% quand même. Alors c'est pas mal, c'est pas banal ça. Alors prise de responsabilité des employés qui ont mis en route une grève de soutien à 55 salariés réquisitionnés pour le ramassage des poulets. L'histoire est passée au niveau judiciaire, selon le CSE. Le ramassage devait être remis en route le 12 septembre. À Cap-Denac, à Causse et Diège également, c'est dans le Lot et dans l'Aveyron, dans l'Orne. Donc deux sites de la société Nutergia, en grève le 18 septembre. On fait chez Nutergia des compléments alimentaires, faites la liaison mon ami. Donc en mai dernier, une grève avait obtenu une revalorisation salariale pour une centaine de grévistes, avec une centaine de grévistes, accord signé en juin. Alors sont dénoncés évidemment ce 18 septembre, enfin étaient dénoncés ce 18 septembre, le non-respect des accords et négociations. Des pressions aussi sont dénoncées de la part de la direction. Une enquête a été demandée au sein de l'entreprise. 120 euros avaient été obtenus pour tous et toutes. Seulement, le pour tous ne s'est pas appliqué. Les conditions de travail, c'est un zéro pointé. Le dirlo général, un personnage colérique, impossible comme à la fois l'équipe de manager. Le CSE a fait usage, du moins a enclenché un droit d'alerte. C'est l'inspection du travail qui serait chargée de l'enquête, mais seulement en début 2025. À Pantin, dans le 93, le 24 septembre, mais les piquets de grève sont tenus depuis le 6-09, il faut le signaler. C'est pour une dizaine de travailleurs sans papier, ouvriers du chantier du futur centre d'innovation des rugby. J'ai bien dit des rugby avec un S. Il y a le rugby à 15 et le rugby à 13. Enfin bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres. À Pantin, travaille pour la société OAD et les sociétés OAD et Green Power, et qui dénoncent donc avec la CGT leurs conditions de travail illégales, licenciement arbitraire, salaire versé en retard, heures supplémentaires non payées, pas de congés payés parfois depuis 2 ans, 19 licenciements depuis le mois de janvier 2024. Alors la régularisation avec des CDI, des contrats à durée indéterminée sont espérés évidemment, mais malheureusement il manque pas mal de numéros de sécurité sociale, enfin du moins des numéros de sécurité sociale qui sont non conformes. Bref, la lutte est en place sur plusieurs chantiers en Île-de-France des deux sociétés, donc dont les dirigeants sont en fait les mêmes personnes. C'est la Fédération française de rugby qui est maître d'œuvre dans l'affaire avec le département 93 dans cette grandiose réalisation, mais le respect des droits des travailleurs et notamment sans papier passe aux oubliettes, à la trappe, sauf si évidemment on arrive à conclure. Voilà pour cette deuxième page.
Dac, et ben un petit article pour finir. Je vous parlais tout à l'heure du coup de ces multinationales françaises, enfin ces entreprises en tout cas françaises qui ont financé un petit peu les campagnes de Trump ou de candidats à la Chambre des députés au Sénat. Il parlait dans cet article-là de quelque chose qui s'appelle le Atlas, le projet Atlas. Et en fait, la question de l'article, c'est quel est le point commun qu'il y a entre le Tea Party, le Brexit, les élections de Donald Trump à la présidence des États-Unis et de Javier Milei en Argentine, ou encore le rejet d'une constitution plus progressiste au Chili. Eh bien, au moins celui-ci, beaucoup des think tanks, donc ces cercles de réflexion, hein, et autres organisations qui ont mené campagne pour organiser ces mouvements ou obtenir ces victoires conservatrices, sont ou ont été partenaires d'un réseau international, le réseau Atlas. Donc cette enquête, hein, du coup, qui a été faite aussi par l'Observatoire des multinationales, le réseau Atlas, la France et l'extrême droitisation des esprits, met en lumière le fonctionnement de cette machine idéologique. Le rapport s'appuie en partie sur des documents internes inédits et relève qui sont les partenaires d'Atlas dans l'Hexagone. Je vous incite du coup à aller vraiment sur cet article, vous cherchez un réseau, ce réseau libertarien qui veut imposer ses idées en France, et vous aurez du coup une cartographie avec voilà, les connexions politiques avec ce réseau. Mais je voulais juste vous dire quand même qu'en France, le réseau est particulièrement méconnu alors qu'il y finance des partenaires depuis sa création et a bénéficié de fonds français à travers l'entreprise Michelin par exemple. C'est surtout depuis les années 2010 que les partenaires français du réseau Atlas ont pris de l'importance, notamment à travers leur visibilité dans les médias. Ils ont tous des liens avec le monde des affaires, mais aussi dans bien des cas avec la sphère politique et en particulier bien évidemment avec l'extrême droite et la droite radicale. Ils ont bénéficié de formations et d'autres formes de soutien du réseau états-unien pour mener leur bataille culturelle. Ainsi l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, a été fondée par un grand donateur de la Heritage Foundation proche de l'extrême droite. Sa porte-parole Agnès Verdier-Molinier s'est formée auprès de think tank américains et elle défend aujourd'hui les intérêts des plus riches avec un conseil d'administration et des instances noyautées par de grandes fortunes. Il y a aussi l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, l'IREF, ou l'Institut Molinari, proche des milieux politiques et industriels, qui alimentent la chambre d'éco-libertarienne dans les médias en portant des idées similaires. Critique des impôts et diatribe contre une supposée haine des riches, opposition aux politiques climatiques, appel à la privatisation des services publics, etc. Ces think tanks, très médiatiques, se présentent et sont souvent présentés comme des experts indépendants et apolitiques. Contribuable associé très proche de l'extrême droite, se dit-elle aussi politiquement neutre. L'organisation défend le même type de position, utilise des méthodes de mailing direct similaires à celles des conservateurs états-uniens pour les diffuser et revendiquer 350 000 membres, alors que ces statuts garantissant le contrôle de l'association par une poignée de dirigeants. Plus discret, l'Institut de formation politique, l'IFP, joue un rôle majeur dans cette machine de guerre idéologique. Sur le modèle du Leadership Institute aux États-Unis, il forme des centaines de jeunes conservateurs en France, que l'on retrouve ensuite dans les sphères politiques, associatives et médiatiques. Son fondateur, Alexandre Pezet, proche des conservateurs américains, porte un discours de guerre des civilisations et espère un rapprochement des droites pour défendre, entre guillemets, la France. Un ancien auditeur des écrit l'IFP comme une machine qui forme depuis 20 ans une génération de cadres et militants qui se connaissent entre eux. Plusieurs d'entre elles et eux sont aujourd'hui acquis, ont aujourd'hui acquis une certaine notoriété. Charlotte Dornelas, Thaïs Descuffon, Samuel Lafon, Alice Cordier, etc. Ce groupe d'organisations donc très liées entre elles joue un rôle de chambre d'écho pour les idées libertariennes et conservatrices en France. Et même s'ils restent minoritaires dans l'opinion, leurs porte-paroles sont de plus en plus présents dans les médias et une partie de leurs propositions se retrouve dans le débat et les décisions politiques, par exemple dans le domaine de l'éducation. Aux États-Unis, on retrouve Atlas derrière bien sûr le mouvement du Tea Party et aujourd'hui l'Heritage Foundation pilote le Project 2025, un programme taillé sur mesure donc pour Donald Trump, et ça a marché. En France, les partenaires Atlas n'ont pas le même poids politique, mais grâce à leur méthode, ils imposent de plus en plus efficacement dans le débat public, portant et légitimant des propositions politiques proches de celles de la frange la plus radicale des conservateurs aux États-Unis. Donc je vous conseille ce petit article aussi, d'aller trouver cette cartographie qui est assez intéressante. À 20h59, on refait un tout petit rappel des annonces un petit peu, donc notamment ce samedi à la Plume Noire à 17h avec quelle stratégie de lutte pour les LGBTI, donc un café libertaire, voilà, on peut discuter tranquillement de cette thématique-là. On se retrouvera peut-être sûrement avant, on l'espère, à la Plume Noire, voilà, pour la permanence. Je vous avais dit aussi, pour anticiper un petit peu, mercredi 20 novembre, deux événements à peu près au même endroit, mais pas à la même heure. La journée du souvenir trans, ce sera à 19h. Et les 10 ans de Jamais sans toi, ce sera entre 17h, en tout cas le début, et 18h, pour que ce soit terminé vers 19h, a priori. Donc voilà, il y avait quelque chose le dimanche 10 novembre,
oui,
là, tu l'avais dit.
Voilà, le 10 novembre, donc ce dimanche, à partir de 12h et jusqu'à 0h, hein, donc journée non-stop de soutien au peuple palestinien et libanais. Ça se passe au Ground Zero à Vaux-en-Velin. L'entrée est à prix libre. Et il y a des discussions, des ciné-discussions, table ronde, et puis le petit quart d'heure festif à la fin, évidemment, jusqu'à 0h. Voilà pour les annonces de ce soir.
Et ben voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ah, il n'a pas pris